France Inter.
Aujourd'hui, on a vu, depuis qu'on a ouvert ce centre, débarquer des patients qui n'avaient pas vu de médecin depuis 2 ans. C'est ces patients qui sont des gens modestes, souvent les abandonnés du système. Des gens, ils prennent leur téléphone pour être suivis par un autre médecin. On leur dit non, et puis ça s'arrête là, parce qu'ils n'ont pas forcément le ressort social d'aller faire 40 km pour faire le tour des médecins, d'aller demander à 8 médecins. Donc, ils arrêtent leurs soins.
En ce week-end d'ouverture du Salon de l'agriculture, nous partons à la campagne, dans la Creuse, deuxième département le moins peuplé de France derrière la Lozère. 116 000 habitants, c'est moins que la seule ville de Limoges dans la Haute-Vienne voisine. D'après les données de l'INSEE, la Creuse pourrait perdre 1/5 de sa population au cours des 50 prochaines années. La moyenne d'âge est élevée, les services publics se raréfient, la liste des classes d'école qui ferment s'allonge, l'accès aux soins devient un défi. Département rural par excellence, dans un pays où tout a été fait autour et pour la ville, comme si elle était l'unique lieu d'attractivité.
La somme que l'État attribue à l'habitant du rural est 2 fois moindre que celle qu'il attribue à l'habitant de la ville.
La Creuse vieillit, mais la Creuse attire. Ce n'est pas un ressenti que de l'affirmer, c'est scientifique. Ce que les démographes appellent le solde migratoire est positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'installent que d'habitants qui quittent le département. Dans ces endroits condamnés à se débrouiller pour ne pas s'éteindre, la Creuse est devenue un laboratoire d'innovation.
Il faut revoir le côté positif de revivre la campagne et arriver aussi à trouver du travail ou à se le faire. Je ne peux pas le voir sur une année, il faut que je le voie sur 5-6 ans, voir si c'est rentable et viable.
Ce reportage commence à Champagnat, 474 habitants. Minuscule point sur la carte de France qui se bat pour ne pas mourir à petit feu. Et la commune est sur le point d'atteindre son objectif car les commerces reviennent. Un premier, puis un second, puis un autre encore. Effet d'entraînement qui redonne la vitalité tant attendue au village. Revitaliser les campagnes, l'énergie de l'espoir. C'est un reportage de Marie-Jeanne Delepaule avec Yann Frécy à la prise de son.
Interception.
Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
C'est ici, ça y est. On est arrivé devant le brocanteur. C'est une vieille ferme en pierre qui a été rénovée. À l'entrée, il y a une enseigne, boucherie, charcuterie, café. Alors on voit bien qu'elle a vécu. Voilà, ce n'est plus en activité aujourd'hui. Bonjour.
Bienvenue à la brocante l'abattoir. Donc voilà, c'est chez moi, mon univers. Je suis Denis Courty, je suis brocanteur à Champagnat et je suis un passionné de brocante depuis 20 ans déjà. Voilà.
Ici on trouve un peu de tout, c'est une ancienne ferme que vous avez rénovée.
Mes grands-parents étaient bouchers, charcutiers, et ils avaient une ferme et ils avaient également un abattoir qu'ils ont construit dans les années 50. Du coup, ces abattoirs, je les transformais en brocante.
Vous nous faites visiter ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Il va falloir zigzaguer un peu, naviguer entre les différents objets.
Qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Là, il y a beaucoup de vieilles affiches.
Voilà, des petites tables bistrot qui sont là-bas, des nécessaires de toilette qu'on trouvait à l'époque quand il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Quelques petits objets en rotin, parce que c'est les tendances aussi du moment.
Il y a une vieille balance.
Là, c'est une balance testue, c'était une balance de commerce qu'on pouvait trouver dans les villages, quoi, dans les commerces locaux, parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de commerces. Quoi. On va dire que dans les années 60, 70, il y avait 5 bars, et puis il y avait une couturière, il y avait une coop, il y avait... 2 boucheries, enfin, c'était beaucoup plus dynamique que ça l'est actuellement, même si on a de la chance dans ce village où on sent quand même une envie d'avoir une nouvelle dynamique et de pouvoir prospérer. Enfin, des gens ont envie de revenir vivre ici, quoi, et pas forcément que des vieux, donc enfin, ou des gens à la retraite. Donc ça, c'est top, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de commerce, quoi.
Désormais, vous avez une boulangerie, vous avez un café. Qu'est-ce qui vous manque, en fait, encore ?
Le gros souci, on va dire, c'est au niveau de la santé, quoi. C'est vraiment le gros point noir sur notre département, mais il n'y a pas que le département de la Creuse. Mais Parce que là, on vient de perdre un médecin à proximité, et c'est vraiment compliqué. Alors, quand on est en bonne santé, c'est super, mais faut pas avoir de problème dentaire ou cardiaque ou je ne sais quoi, quoi, parce que sinon, c'est une vraie galère, quoi. Bon, ça, c'est une guitare qui n'est pas accordée, de 76, je crois, une petite guitare.
Vous entretenez la mémoire du village, en quelque sorte?
Oh, je sais pas si j'entretiens la mémoire du village, mais ouais, un peu. C'est toujours bien de refaire vivre quand même des locaux, des lieux où il y a eu du monde. Je sais que dans la ferme, ça grouillait de monde. Le dimanche, il y avait du monde qui revenait de la chasse, du foot. Mes grands-parents avaient le bar et le restaurant. Et moi, j'étais petit, mais j'ai ce souvenir-là où il y avait 40, 50 personnes qui faisaient des allées-venues, qui buvaient, qui mangeaient, ou ça chantait, ça dansait, voilà, c'était la vie, quoi.
À quelques pas de la brocante se trouve un café. Ils ont tous les deux ouvert en même temps, à l'été 2021, et 6 mois avant, le premier qui s'est installé à Champagnat, c'est le boulanger. Un jeune de 33 ans, son arrivée a donc fait boule de neige dans cette commune qui n'avait plus aucun commerce. Il fait nuit noire, il est 6h du matin, on a emprunté des petites routes départementales qui serpentent entre les pâtures et on a rendez-vous avec le boulanger, c'est la seule maison éclairée, c'est le seul à être debout à cette heure-ci. Plus on se rapproche, plus ça sent le pain frais. Et voilà le fournil.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, et vous ?
Ça va.
Devant nous, il y a 3 caisses de viennoiserie, plein de croissants, croissants aux amandes, pain au chocolat, chaussons aux pommes.
Tout à fait, qui sont sortis du four il y a une petite heure déjà.
Là, c'est pour moi la partie la plus satisfaisante du métier, c'est le défournement. C'est toutes les odeurs de pain qu'on peut avoir qui sont assez agréables. Le seigle donne toujours des notes un peu miel.
Je confirme, ça sent bon.
Donc ça c'est cuit, ça sonne creux, c'est que c'est cuit.
Et alors est-ce qu'on va entendre le pain qui chante?
Là, c'est possible sur les grosses pièces.
Mathieu Pardano, vous êtes le boulanger de Champagnat. Pourquoi vous avez décidé de vous installer ici et de reprendre la boulangerie?
Déjà parce que la boulangerie était disponible à la location par la mairie. J'avais pas forcément besoin d'apport pour reprendre celle-là, donc c'était un plus. Donc la mairie a remis de l'argent, ils ont acheté le bien immobilier avec le matériel et il a fallu le réparer en partie, racheter une machine qui était complètement à remplacer, rénover le four, remettre aux normes la pièce, plafond coupe-feu, etc., la pièce où je cuis. Et la Creuse, parce que je suis creusois, que ma famille est ici et que voilà, c'était retour un peu aux racines.
Est-ce que c'était important pour vous de vous installer dans une petite commune qui n'avait plus du tout de boulanger et de faire revivre ça ?
C'est important parce qu'on est le premier contact qu'ils vont avoir avec, entre guillemets, le monde extérieur, à part la radio dans la voiture et voilà. Donc c'est sûr que c'est valorisant pour nous de savoir qu'on est là, que les gens apprécient qu'on soit ouvert. Là, je recroise les clients quand je vais au bar, je discute, je fais plus connaissance aussi avec eux, avec les gens qui habitent ici. C'est toujours mieux à la campagne qu'en ville.
Est-ce que c'est rentable d'avoir une boulangerie comme vous dans un village de 500 habitants ?
Le blanc veut tout dire. Le silence va tout dire. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas impossible. Il faut vraiment beaucoup jongler avec les charges fixes, avec le coût des matières premières, avec l'énergie. En ce moment, c'est vrai que c'est pas la meilleure période. Il faut augmenter, pas trop, faut pas perdre trop de clientèle. Donc ça peut être vite compliqué. Les petits aléas climatiques, la pluie, avoir moins de clients, la neige, encore un petit peu moins. On peut vite avoir une petite baisse, et ces petites baisses-là quotidiennes qui peuvent être impactantes sur l'année. Je peux pas le voir sur une année, il faut que je le voie sur 5-6 ans, voir si c'est rentable et viable.
Comment ça se passe de vivre ici à Champagnat quand on est comme vous, un jeune couple avec deux enfants en bas âge ?
Alors, pour le coup, sur la commune, on a l'école qui est à côté. Il y a un relais d'assistante maternelle aussi, juste à une centaine de mètres. Donc, c'est un confort indéniable. Moi, je suis habitué à la vie de la campagne. Pour moi, c'est pas trop dérangeant, mais ma compagne, par exemple, qui est argentine, qui a grandi à Buenos Aires et qui est réputée pour être la ville de la furie. C'est le New York sud-américain, ça bouge tout le temps. C'est vrai que c'est un autre rythme de vie et ça peut être un petit peu plus délicat sur du long terme. Après, on n'est pas à plaindre non plus. Autour d'Aubusson, il y a un cinéma, il y a un musée, il y a un théâtre. Il y a des très bons restaurants aussi. Il y a des concerts sur Champagne. Voilà, on a des concerts sur toute l'année. Enfin, il y a un peu de tout. Après, c'est vrai que on est à la campagne, il faut faire 10-15 km pour le trouver. Il faut vouloir.
Vos copains d'enfance qui ont grandi comme vous en Creuse, ils sont restés aussi comme vous ou ils sont partis ?
Je ne connaîtrai pas la proportion, mais on est beaucoup à être partis. Ceux qui ont fait des études supérieures, moi je suis parti à la fac à Limoges, donc automatiquement on s'éloigne un petit peu, le temps des études, et puis on découvre aussi autre chose, donc on est vite attiré par la ville, par plein d'autres choses. Je suis parti à l'étranger, on est vite happé, mais je pense que honnêtement, quand on prend le coup du retour en Creuse et le retour surtout ici, alors pas forcément parce qu'on serait natif ou pas, mais de revenir en Creuse, je pense qu'on a tout à y gagner. Il faut revoir le côté positif de revivre la campagne et arriver aussi à trouver du travail ou à se le faire, à se créer son propre travail ou à en trouver. Et ça, c'est par contre plus compliqué.
Donc il est 7h30, ça y est, la boutique ouvre.
Bonjour. Oh là là. Je vais prendre deux pains bien cuits, s'il te plaît. Moi, je viens là tous les matins. Voilà, je suis bien content d'avoir ce service avec du bon pain au levain.
C'est comment votre prénom ?
Laurent. Et puis voilà, je suis originaire de Champagne. Ma famille depuis au moins la Révolution française, donc bien ancré dans le pays.
Vous l'avez accueilli avec joie, du coup, l'arrivée du boulanger ?
Bien sûr, on l'attendait impatiemment parce qu'on n'en avait plus, je ne sais pas combien de temps on est resté sans pain, mais c'est oui, très important chez nous, très important. Oui, comme le petit bar qui a rouvert aussi, pour le lien de vie, pour plein de choses, c'est très très important. Champagne, et dans le secteur, je pense qu'on fait des envieux quand même, quelque part, je pense.
Oui, c'est le contre-exemple.
Oui, je pense. Oui, pour la région, oui, il n'y a pas beaucoup d'encreuses qui... Pas beaucoup de villages qui se disent dynamiques comme celui-ci, ouais. On a recréé un petit comité des fêtes, dont je fais partie aussi. Cet été, on a fait de super animations. La fête de la pomme qui a été un super succès. Enfin, voilà, oui. Et à chaque fois, on a du monde, donc on va pas se plaindre, tant mieux. C'est super. Et ben voilà.
Merci, le brassard, Mathieu.
Allez, je suis en retard au travail maintenant.
Bonne journée.
Champagne a retrouvé une dynamique positive, c'est aussi parce que les élus de la commune ont mis la main à la poche. Nous allons maintenant à Marsac, à l'ouest du département, 640 habitants. Ici, la municipalité a cassé la tirelire pour avoir son mini-centre commercial, entre 2 et 300 000 euros de subventions obtenues à tous les niveaux, État, région, département.
Là, à pied, là, vous suivez le chemin, vous allez arriver sur un parking, et c'est juste en face.
C'est devant ce lieu de vie qui regroupe 6 commerces, bientôt 7, que nous avons rendez-vous avec le maire de la commune, Daniel Dumas.
Il faut savoir que sur ce centre, lorsque nous avons pris la municipalité, il n'y avait plus rien. Il nous restait un dépôt de pain qui était géré par les élus, et puis un café, mais qui ne servait que des cafés, si je puis dire.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, tous les locaux sont occupés. On a commencé par installer un boulanger. Et puis, ainsi de suite, ça s'est développé. On a eu l'arrivée de la quincaillerie, qui fait aussi un petit peu épicerie. L'arrivée de l'opticienne, qui cette année va élargir son offre avec un audioprothésiste. Une coiffeuse qui est là, mais elle depuis fort longtemps. Une esthéticienne qui s'est installée, c'était la dernière arrivée. Et puis le café qui est devenu bar-restaurant et qui fait des repas le midi, qui dynamise aussi ce centre qui maintenant vit de plus en plus. Quoi.
Mais comment c'est possible d'avoir autant de services dans une commune de à peine 700 habitants ?
C'est ça. On a été aidé par la région, par l'État. et on a été aidé par le conseil départemental avec le boost commune. Donc tous ces éléments-là ont fait que on a pu acheter du matériel, on a pu refaire des locaux et on a pu installer les gens au niveau des différents magasins.
Du coup, quand on est élu comme vous, il faut frapper
à toutes les portes. C'est assez difficile, il faut se battre, il faut faire des dossiers, il faut aller un petit peu à la pêche, comme on dit, mais bon, on peut pas faire autrement. Alors on a joué aussi sur un autre élément, qui sont les loyers. En gros, ça a été divisé par deux. Plutôt que d'étrangler les gens en disant ben, « ça va nous rapporter à la mairie et tout », on a préféré être plus modeste et puis faire en sorte que les gens puissent travailler et faire vivre leur personnel, sachant qu'ici, on a quand même recréé 12 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Et ça permet à la population d'avoir les services qui sont demandés.
Est-ce que tous ces nouveaux investissements attirent de nouveaux habitants ? Est-ce que vous en voyez les retombées ?
C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Marsac, en 3 ans, il y a eu 87 nouveaux arrivants. Alors, il y a certainement l'effet Covid, comme on dit, mais je pense qu'il y a aussi les services qui sont fournis à la population, puisque au niveau de notre centre-bourg, on a bien sûr le centre commercial, mais quand vous regardez de l'autre côté de la route, vous avez la maison de santé, vous avez la pharmacie, maison de santé où on a la chance d'avoir encore un médecin, et c'est quelque chose de très positif pour notre village.
On peut naître, vivre et même finir sa vie à Marsac.
C'est ça, on a un EHPAD, vous pouvez aller jusque-là.
Sans bouger de la commune.
Sans bouger de la commune. On a une école, on a un EHPAD, on a plein d'atouts sur cette petite commune. On a même la voie ferrée avec une desserte ferroviaire assez fréquente qui est sur la ligne Guéret-Limoges. Ce que vous entendez, ce sont les travaux sur la micro-crèche qui va passer crèche, puisqu'on va passer de 12 à 15 enfants accueillis au niveau de cet ensemble-là, qui se trouve au milieu du centre commercial aussi. Donc les parents, quand ils viennent chercher des enfants, ils peuvent faire leurs courses. L'utile à l'agréable.
Bonjour. Je m'appelle Christine et je tiens une quincaillerie épicerie.
Regarde, ils vont pas te manger. T'as peur du micro ? Hein ?
On vient chez vous parce que globalement vous avez un peu de tout.
Oui, on m'appelle aussi la caverne d'Ali Baba.
Pourquoi vous avez décidé de vous installer à Marsac ?
Le local que j'avais à Bénévent n'était pas du tout fonctionnel pour mon métier. Et il y a une opportunité que la mairie m'a proposée, donc à Marsac. Et puis voilà, j'ai tout déménagé et je suis là. Il y a des camions d'épicerie qui passent dans les petits villages. Mais ceux qui ne peuvent pas conduire sont obligés d'attendre ces petits camions s'ils ne pouvaient pas faire de course à l'improviste. Donc c'est pour ça que c'est important que dans tous les petits villages, qu'on se batte pour que nos petits commerces de proximité continuent d'exister.
C'est un combat pour vous d'être commerçante ici ?
Oui. En campagne, c'est toujours un combat. On fait tout ce qu'on peut, mais on n'a pas toujours les résultats... escompté. C'est très dur quand même.
Pourquoi ?
Parce que on manque quand même un peu de clientèle et les charges sont très lourdes et c'est très compliqué de se sortir des salaires décents à son compte.
C'est-à-dire depuis un an que vous êtes ici ?
Je n'ai pas eu de salaire tous les mois. Je fais tout ce que je peux.
Parce que c'est une forme d'engagement ?
Les quincailleries sont en voie de disparition dans toute la France. Je suis quand même quincaillère de base. J'ai créé l'épicerie vraiment complémentaire pour les habitants de Marsac. Et ce genre de petit magasin où on va vendre un joint, on va vendre une rondelle, existe de moins en moins. Je me bats pour que ça continue d'exister.
Alors, c'est la salade ?
Oui.
1,30, s'il vous plaît.
Merci. Et voici pour vous.
Merci.
Très bonne journée.
À vous aussi.
Merci.
On va pousser la porte du bar-resto. Avant, c'était un café et maintenant, donc, un restaurant à proprement parler. Bonjour.
Je m'appelle Nicole Cusson. Je suis dans la restauration depuis l'âge de 14 ans. Je suis issue d'une famille de restaurateurs, donc la 5e génération. Et nous sommes venus nous installer à Marsac, au départ pour rien faire, et puis finalement pour retravailler. Voilà.
Quand est-ce que vous êtes arrivé ici pour travailler ?
Pour travailler, ça va faire 1 an, le 1er mars.
Qu'est-ce qui a facilité votre installation ici ?
L'accueil que l'on a eu, la demande qu'il y avait, l'ambiance du bourg, la municipalité, les gens. Donc c'est vraiment un accueil très chaleureux. Les gens de Marsac ont eu des commerces, ne les ont perdus pas par leur faute, bien sûr. Et maintenant, savent faire la part des choses et participent beaucoup à la vie du village et sont très accueillants pour les commerçants et font travailler les commerçants. Et ça, c'est super bien.
C'est-à-dire que vous avez souvent du monde qui vient manger le midi?
Oui, on a beaucoup de monde, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de repas d'association. Les gens nous font vraiment bien travailler.
Vous étiez restauratrice à la retraite?
Voilà, tout à fait. C'est exactement ça.
Et pourquoi vous avez repris du service à Marsac ?
Parce que je suis née dans la restauration et que c'est très compliqué d'arrêter de travailler, puis que j'avais pas envie d'arrêter de travailler. Voilà.
Il y a aussi des loyers qui sont...
Alors les loyers ont été minorés et ça a pesé dans la décision. Et l'aménagement des locaux, des cuisines et des locaux en général, chauffage, etc., ça a été pris en charge par la mairie. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse très fortement dans la balance, dans l'investissement. Donc ça nous a permis d'arranger l'établissement à notre goût et de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire s'il n'y avait pas eu tout ça. Puis on est très content parce qu'on a créé des emplois. Donc ça, c'est aussi une satisfaction importante.
Combien ?
Si je ne me compte pas, moi et mon mari, ça fait 2. Et si on se compte, nous, ça fait 4 emplois. Voilà.
Et vous avez à peu près combien de clients par jour ?
On a au moins 300 à 350 clients par jour.
Donc la moitié de la population de Marsac ?
Oui. Donc c'est là où je vous dis que la population joue vraiment bien le jeu, donc ça c'est super.
Depuis les années 70, les zones rurales ont majoritairement arrêté de perdre des habitants, mais pas la Creuse qui, elle, continue sa dégringolade démographique avec sa population âgée. Mais le département attire également, notamment depuis ce qu'on a appelé l'effet Covid et ce besoin des citadins de retrouver de l'espace et du vert. Cet effet reste cependant mesuré et le restera encore longtemps, tant le monde rural a souffert de la préférence des pouvoirs publics pour la ville. Marie-Jeanne Delepol a contacté Pierre-Marie Georges.
Allô.
Il est géographe et salarié de l'Association des maires ruraux de France. Il est en duplex depuis Saint-Étienne.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre-Marie Georges. C'est bon, on y va ?
L'aménagement du territoire a été très longuement pensé sous le prisme des métropoles. L'idée du ruissellement a été dominant dans les politiques de l'État, avec cette idée qu'il fallait des métropoles très dynamiques et très attractives, et donc une forme de focale des financements publics sur ces espaces urbains. Aujourd'hui, le fait que dans le débat public, il y ait l'expression de cette volonté d'installation et de ces réussites, parce qu'il y a énormément d'endroits ou de petites histoires qui montrent ces réussites d'installation et ces réussites de création d'activités, amène les pouvoirs publics à changer de regard, amène l'État aussi à changer de regard sur le monde rural, et donc à s'en intéresser autrement que par le seul filtre de l'agriculture ou des espaces de loisirs de proximité. Et récemment, depuis 2017, il existe un secrétariat à la ruralité qui est l'expression de la prise de conscience que la ruralité, au même titre que la ville, devait faire l'objet de politiques publiques adaptées à ses réalités et à ses besoins.
Et alors, est-ce que les politiques publiques sont réellement adaptées aujourd'hui ? Est-ce que l'État, par exemple, dépense autant pour un citadin que pour un rural ?
Alors on part de très loin. Une grande partie des dotations sont pensées avec le filtre des années 60 où on réfléchissait à partir de charges de centralité et donc on donnait plus d'argent au milieu urbain au prétexte qu'il gérait une gamme de services au bénéfice d'un bassin de population plus large et les ruraux y compris. On va de 64 euros par habitant dans une commune de moins de 500 habitants à 128 euros par habitant dans une commune de 200 000 habitants. Donc c'est-à-dire qu'entre les deux, il y a effectivement un ratio de 1 à 2 entre un habitant du rural et un habitant de l'urbain. la somme que l'État attribue à l'habitant du rural est deux fois moindre que celle qu'il attribue à l'habitant de la ville.
Même si l'argent est bien souvent le nerf de la guerre, pour survivre, il faut aussi savoir se vendre, communiquer donc. À Agen, A-J-A-I-N, la municipalité a fait beaucoup de bruit pour essayer de trouver un médecin. Le dernier généraliste est parti à la retraite il y a 2 ans, impossible de lui trouver un remplaçant. Mais depuis cet automne, la commune expérimente une solution unique en France. Un cabinet médical s'est installé, des médecins de tout le pays se relaient pour assurer les consultations.
Donc, je suis Martial Jardel, je suis un jeune médecin généraliste de 31 ans et je suis le cofondateur de l'association Médecins Solidaires. Fais une visite commentée alors ? Là on rentre dans l'accueil, qui est l'endroit où les patients arrivent, et la première personne qu'ils voient c'est Joanne, qui est notre coordinatrice à temps plein ici, embauchée par l'association Médecins Solidaires, et qui tient la boutique. C'est très important dans le projet depuis le début. Comme le médecin va changer toutes les semaines, il faut qu'il y ait absolument quelqu'un qui tienne la boutique et qui puisse faire la coordination entre la patientèle, les médecins, et s'assurer que tout fonctionne bien. Alors là, c'est la salle d'attente. Et donc, dans la salle d'attente, ce qui est très important, c'est de voir la carte de France avec les photos de tous les médecins qui sont déjà passés pour l'instant et qui ne vont que s'agrandir. Donc là, on est à 3 mois d'ouverture et il y a déjà une quinzaine de photographies. Donc, on voit des visages de plein d'endroits en France différents. Et c'est vraiment très important de comprendre que c'est un projet qui est vraiment à envergure nationale. C'est pas juste les médecins du coin qui vont venir détacher du temps, même s'ils peuvent. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment créer un mouvement national des médecins qui se mobilisent pour lutter collectivement contre les déserts médicaux.
Vous, madame, vous avez rendez-vous ?
Tout à fait, j'ai rendez-vous à 16h. Et c'est la première fois que je viens à ce centre médical. Bah, ça fait presque 4 ans que je suis sans médecin. Je me suis réinstallée en Creuse à ma retraite au 1er janvier 2020. Et depuis, bah, c'est l'horreur. Les médecins ne prennent pas de nouveaux patients. On est quelquefois accueillis fraîchement, je vais dire, par les secrétariats médicaux. Ce qui fait qu'on n'accède pas aux médecins. Alors évidemment, moi, ça me fait un choc, puisque je viens du Sud, hein, où il y a un médecin tous les 10 mètres. Hein, voilà. Donc c'est grave quand même. Hein, c'est très, très grave. Et j'ai 68 ans. Je le dis parce que c'est quand même important d'avoir une offre de soins. Alors je m'autant vous dire que je suis très heureuse d'être là. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Je ne sais pas qui je vais voir, je sais pas... Je sais que j'ai trouvé.
Merci à vous.
Et donc tous ces médecins, ils viennent pendant une semaine ici en fait.
Voilà, ça c'est le principe. Donc c'est une semaine par an qu'on leur demande au minimum de dédier dans leur agenda médical. Il y a des médecins qui sont remplaçants, donc qui eux travaillent un peu quand ils veulent. Il y a des médecins qui sont installés, mais qui sont dans des structures dans lesquelles ils peuvent facilement se faire remplacer, parce que ce qu'on veut éviter, c'est de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça n'a aucun sens de prendre un médecin qui est dans le Jura, qui est déjà sous l'eau, et lui demander de venir à Agen travailler une semaine. Et puis il y a des médecins retraités qui, de toute façon, ne travaillent pas. Mais une semaine, c'est toujours un temps qu'on peut réussir à trouver pour participer à un projet qui a du sens.
C'est quand même un petit peu particulier pour les patients parce qu'ils n'ont pas vraiment de médecin traitant. Toutes les semaines, c'est un visage différent. Pour le suivi de certains dossiers médicaux un peu complexes, ça peut être aussi difficile à vivre pour eux. Et en termes de santé, est-ce qu'ils sont aussi bien suivis qu'ailleurs ?
Ça peut être difficile à vivre, mais ça peut être aussi une opportunité. Nous, on le voit comme ça, parce que c'est plusieurs regards qui se croisent sur un dossier. Aujourd'hui, c'est des patients qui ne sont pas soignés. Donc il serait totalement hypocrite de dire qu'il serait mieux soigné différemment. Aujourd'hui, on a vu, depuis qu'on a ouvert ce centre, débarquer des patients qui n'avaient pas vu de médecin depuis 2 ans. C'est ces patients qui sont des gens modestes, souvent les abandonnés du système, des gens, ils prennent leur téléphone pour être suivis par un autre médecin, on leur dit non, et puis ça s'arrête là, parce qu'ils n'ont pas forcément le ressort social d'aller faire 40 km pour faire le tour des médecins, d'aller demander à 8 médecins. Donc ils arrêtent leurs soins. Et donc... ces patients, ils ont une histoire médicale très fragmentée, un peu aux urgences de l'hôpital, un peu à droite, un peu à gauche quand ils ont un problème. Là, on rassemble leur histoire médicale dans un centre médical qui devient leur médecin traitant, avec que des médecins qui sont très motivés parce qu'ils viennent pas ici pour gagner de l'argent, parce qu'ils sont beaucoup moins bien payés que s'ils faisaient une activité classique, et qui viennent du coup parce qu'ils ont du cœur à l'ouvrage. Ils ont envie de faire de la bonne médecine. On n'est pas là pour faire de l'abattage. C'est pas un centre de soins non programmé qui est là pour faire du chiffre. On est là pour voir des patients, les voir bien et régler leurs problèmes.
Et justement, comment ça se passe, leur rémunération? Ils sont payés par qui, ces médecins? Est-ce que ça coûte cher et qui paye?
Les médecins, ils sont salariés du centre de santé sur un CDD de une semaine. Et donc, c'est l'association Médecins Solidaires qui encaisse la recette des consultations et qui redistribue sur les médecins, en les salariant, et puis en les logeant, en payant le logement, en payant le véhicule qu'on leur met à disposition et en payant les coordinatrices, évidemment, qui font le travail.
Mais concrètement, ils sont payés combien?
Concrètement, ils sont payés environ 800 euros la semaine. 800 euros, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut gagner dans une clinique par jour en étant intérimaire.
Centre médical d'Agen, bonjour. Oui, je peux avoir un créneau pour vous, du coup, demain à 16h. Est-ce que ça vous conviendrait? Je vous en prie, bonne journée. Au revoir.
Je suis Emmanuel Brochot, donc le cofondateur de Bouge ton coq et de Médecins Solidaires.
C'est vous qui avez inventé, entre guillemets, ce concept de cabinet médical. Est-ce que l'idée, c'est de dupliquer ce modèle ailleurs en France?
Oui, absolument. En fait, cette idée est née avec Martial Jardel, hein, que vous avez entendu tout à l'heure. Et donc, on est en expérimentation sur le village d'Agen. Ça se passe plutôt bien. Et l'objectif, évidemment, c'est de répondre aux déserts médicaux, donc de multiplier et de dupliquer cette solution au maximum dans les villages de France. Le besoin est tel que la France est un désert médical et on va prioriser les déserts dans les déserts, c'est-à-dire en la ruralité. Alors, où, c'est pas encore défini, combien, c'est pas non plus totalement arrêté. En fait, ce qui est intéressant dans une expérimentation, c'est de savoir comment ça marche, comment on fait. C'est d'essuyer des plâtres, de mettre les rustines là où on n'a pas été bon. Plus il y aura de médecins qui rejoindront Médecins Solidaires, plus on sera en capacité d'ouvrir des centres. L'objectif, c'est d'en ouvrir 5 en 2023, au minimum. Si on peut en ouvrir plus, on en ouvrira plus. L'urgence, elle est immédiate. On peut pas attendre 20 ans pour ouvrir 10 centres, ça n'a pas de sens. Il faut répondre à l'urgence médicale maintenant.
Et c'est difficile de convaincre les médecins de venir comme ça passer une semaine dans un désert médical?
Difficile, je ne sais pas si c'est difficile, c'est innovant. Alors il faut surtout faire de la pédagogie, parce que quand vous allez voir les ministères, quand vous allez voir les gens qui sont en charge, ils vous disent qu'il n'y a pas de solution. Alors soit on attend 15 ans, qu'effectivement il y ait plus de médecins, soit on se retrousse les manches et on se dit la solution n'est peut-être pas totalement parfaite, mais ce qui est clair, c'est qu'elle apporte, elle rapporte à nouveau du soin dans ces villages qui sont complètement en déshérence, et ça vaut le coup d'y aller. Donc c'est pas compliqué de les convaincre, il faut faire de la pédagogie, il faut faire ce que personne ne fait, c'est-à-dire leur rappeler leur serment d'Hippocrate, et en général, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, ça marche, parce que une vocation, ça ne s'éteint jamais.
Pourquoi vous avez choisi Agen et la Creuse pour votre expérimentation?
Ça, je crois qu'il faut remercier monsieur le maire et le conseil municipal. Agen n'avait plus de médecins depuis 2 ou 3 ans, je me souviens plus. Ils ont mis des panneaux Agen cherche médecin, ils ont fait une vidéo incroyable qui a pas mal viralisé, ils ont tambouriné à la porte de l'ARS. Enfin bref, ils ont fait du bruit. Ils ont dit on n'est pas content. Nous, on a besoin d'un médecin, on veut un médecin. Et puis nous, quand on s'est mis en quête d'un village, le bruit qu'a fait la mairie d'Agen autour de son déficit de médecins nous est apparu. Et effectivement, il y a une énergie incroyable dans ces villages-là. Il faut la catalyser, il faut arriver devant ces citoyens qui ont envie de s'engager avec des solutions. C'est ça, Bouge ton coq. C'est à ça qu'on sert. On a ouvert 150 épiceries en 18 mois sur ce modèle-là. On soulève des montagnes avec ça. C'est le collectif, hein. Les citoyens sont... Aide-toi, le ciel t'aidera, ça marche très bien. Hein.
Le cabinet médical d'Agen est un petit cabinet modulaire de 60 mètres carrés. Facile à monter et démonter, il tient dans une remorque de camion. Le fruit d'un long et harassant travail du maire de la commune, Guy Rouchon.
Alors ça fait 2 ans hein, qu'on cherchait un médecin. Le précédent est parti à la retraite fin 2020. Et on a cherché, on s'est rendu à l'ARS, on a fait des réunions, l'ARS, la CPAM, l'Ordre des médecins. On a fait une vidéo, on est allé sur différents médias locaux et nationaux. Rien n'y a fait. Et il se trouve qu'un jour, Martial Jardel m'appelle et m'explique par téléphone son projet. Et alors effectivement, d'emblée, comme ça, on se dit, c'est peut-être un peu utopique. On l'a rencontré et on s'est dit qu'on tentait l'aventure. C'était une expérimentation, on savait que c'était une expérimentation. Mais on a fait le pari que ça allait réussir.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est élu comme vous, il faut faire des pieds et des mains, et puis il faut aussi se mettre en scène, quitte à faire des vidéos sur YouTube.
Tout à fait. Tout à fait, il faut aller jusque-là, faire des vidéos pour attirer l'attention et éventuellement avoir un regard sur la commune d'Agen.
La Creuse, c'est une rivière. C'est aussi le nom de mon département. C'est ouvert et c'est au milieu de la France. Le seul problème, c'est que notre docteur, qui est là depuis 40 ans, il part à la retraite à la fin de l'année. Il a même soigné ma maman quand elle était petite. À la mairie, ils veulent attendre le nouveau docteur pour dessiner et construire son cabinet avec lui. En vrai, ici, vous allez adorer. On a trop hâte. On t'attend.
L'idée, c'était de dire aux futurs potentiels médecins, n'ayez pas peur de venir vous installer en Creuse, c'est ça ?
Tout à fait. Et on espère que... Alors aujourd'hui, c'est Médecins Solidaires qui est là. Peut-être que demain, et on l'espère bien sûr, mais tout le monde l'espère, qu'un médecin, ou peut-être deux, hein, peut-être un couple, s'installe définitivement à Agen. Parce qu'ils seront venus une fois, deux fois, trois fois peut-être, et auront trouvé que les gens de les Creusois sont accueillants et qu'il y a vraiment il y a un vrai paysage, il y a des activités sportives, culturelles, tout ça, ça existe vraiment. Alors pas obligatoirement à Agen, mais à Guéret qui est à 10 minutes.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Dernière étape de ce reportage à Sana, le plus petit village d'ailleurs que nous traversons au cours de cette balade creusoise. 339 habitants, ici, ni pouvoir public à la manœuvre, ni subvention, ni communication pour se faire connaître. Ici, la nouvelle épicerie tourne à plein régime car des habitants donnent de leur temps libre. D'abord, 15 bénévoles à l'ouverture, c'était en mai 2020, et désormais 40. En caisse, dans les rayons, à l'approvisionnement, à Sana, la petite COP est dorlotée. Et c'est ici que l'on retrouve Marie-Jeanne Delepol et Yann Frécy.
Interception sur France Inter.
On vadrouille un peu à la recherche de l'épicerie. On passe devant la mairie, l'école. L'école qui vient d'ouvrir une nouvelle classe à la rentrée de septembre. Chose rare en Creuse et dans beaucoup de campagnes où l'heure est plutôt à la fermeture.
Bonjour.
On cherche l'épicerie.
L'épicerie, alors elle est à gauche de l'église, là, tout de suite à gauche.
D'accord. Merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Bonjour.
Enchantée. Elisabeth. C'est
marqué. Ça sent bon les croissants chauds.
Voilà, on a le boulanger qui vient de nous livrer. On est prêt pour accueillir tous nos clients pour leur donner ce qu'ils ont commandé ou ce qu'ils désirent qu'on a à la boutique. Jessica, la cantinière.
Bonjour.
Qui vient chercher pour la cantine tout ce qu'il faut.
Bonjour.
Et le secrétaire de mairie qui a l'habitude de venir chercher son petit pain au chocolat tous les matins.
Non, 2,99€. 2,04, c'est le prix des œufs.
Alors aujourd'hui, c'est vous à la caisse, Elisabeth ?
Oui, tout à fait. À peu près une fois par semaine, je viens et on est deux bénévoles tous les matins, sauf le lundi qu'on est fermé. On a ouvert la COP il y a deux ans, bientôt trois.
Elisabeth, vous êtes une bénévole de la première heure. Comment ça se passe ici exactement ? Ce sont les habitants qui font tout ?
Tout à fait. Voilà, les habitants gèrent les stocks et passent les commandes à tous les fournisseurs. On a beaucoup de fournisseurs locaux, donc ça fait beaucoup de fournisseurs. Et ensuite, les commandes arrivent et là, il faut étiqueter tous les vendredis matins. C'est une fourmilière ici parce qu'on a 3-4 bénévoles qui sont là pour étiqueter tous les produits.
Et alors, vous vendez un petit peu de tout ?
C'est ça. On vend de tout, on essaye de faire pour que la personne âgée qui habite ici, qui veut faire ses courses, puisse tout trouver ici. Alors, bien sûr, le pain. En producteurs locaux, on a les fromages, la farine, les œufs, la bière, les confitures. Et là, on a toutes les conserves, les produits d'entretien. Étant donné qu'on n'est que des bénévoles, on a une très petite marge, on prend 10% sur les prix juste pour l'entretien du bâtiment. Donc on pense très compétitif par rapport au supermarché.
Oui, c'est-à-dire que par exemple, le kilo de pommes n'est qu'à 2,20€.
Oui, et même si vous prenez les pommes locales, je crois que c'est encore moins cher. Il me semble que c'est 1,80€.
C'est quand même un gros investissement en termes de temps pour les habitants. Est-ce que vous trouvez ça, entre guillemets, normal que ce soit des bénévoles qui doivent tenir aujourd'hui les commerces dans les petits villages ?
Je pense que le fait que ce soit des bénévoles, c'est ça qui crée l'ambiance qu'on a voulu créer ici. Et je trouve qu'on peut tous donner un petit peu de temps pour les autres.
Vous, vous êtes retraitée ?
Non, moi je suis agricultrice en activité encore pour 2 ans.
Ah oui, et je dois aller tendre mardi, je crois. Le pain de Magali, du moins.
Moi-même, je t'ai mis avec ton
brouillon. Hop. Comme ça, je suis là. Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Dans cette épicerie, il y a beaucoup de produits locaux et notamment des produits laitiers, des fromages de chèvre. C'est vous qui les produisez, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On livre la petite coop depuis le début. Je m'appelle Carole Gibert, je suis productrice de fromages de chèvre et de brebis donc à Rethère, sur la ferme du Cabriolet. Donc du coup, on vend des petits crottins de chèvre, des bûches, des camemberts de chèvre, des yaourts de chèvre et de brebis. Et voilà.
Quel intérêt, vous, en tant que productrice, vous avez à vendre ici, dans une petite épicerie comme ça de village ?
Ben en fait, au niveau localisation, on n'est vraiment pas loin, peut-être à 7 km d'ici. Et en fait, c'est une fierté quand même de pouvoir vendre nos produits à des initiatives locales.
Pour vous, c'est mieux comme ça de vendre en circuit court ?
Ben on vend, nous, toute notre production, elle est vendue en circuit court. Et en fait, participer à la petite coop, c'est aussi c'est un plus pour nous. Nous, c'est pas forcément financièrement, c'est pas ce qui nous fait vivre, mais en fait, on participe aussi à cette initiative.
Et ce genre d'initiative, vous pensez que c'est vraiment un soutien pour les producteurs locaux d'avoir comme ça des épiceries de village ?
Oui, et ça va dans les deux sens en fait. C'est un soutien pour les producteurs locaux et les producteurs locaux soutiennent vraiment cette initiative.
Et pourquoi ?
Ben parce qu'on est fiers en fait qu'il y ait cette petite coop avec ses bénévoles qui soient juste à côté.
Les avocats, 1,50. T'as du pain ?
Oui, j'ai deux mon pain normalement.
Patricia, vous faites vos courses ce matin ?
Oui, j'habite Sana. Oui, je suis bénévole aussi.
Vous aussi, vous mettez la main à la pâte ?
Oui, mais bon, moi, je suis aide-soignante, donc j'ai peu de disponibilité. Je viens quand je peux, quoi. Voilà, c'est convivial, on boit notre café. C'est vraiment avec plaisir que je viens, moi. C'est vivant, moi, je trouve que depuis que l'épicerie a réouvert, moi, je trouve qu'il y a du monde, ça... Et puis même, il y a des gens qui sont venus habiter par rapport à ça. Oui, il y a une école, tout, ben, ils ont acheté. À côté de chez moi.
Là, récemment ?
Oui.
Une famille qui venait d'ailleurs, oui. Qui s'est installée à côté de chez vous ?
Oui. Alors, attends, je vais prendre 2 pains au chocolat. Vous voulez boire un café ?
Ah bah, pourquoi pas ?
Parce que ça aussi, ça fait partie de notre... Bon, alors, Lisa, elle en voudra un. Toi aussi, 5 cafés. Ça fait notre petit bar et tout. Je vais faire votre café.
On vous en demande pas tant. Hein.
Non, non, mais c'est comme ça. Nous, on est très chaleureux. Tu veux quoi, Elisabeth, toi ?
Café lent. Espresso, café lent.
Espresso, il y a coffee.
Un café long pour moi.
3 longs. Lisa, tu veux quoi ?
Toutes ces initiatives que nous avons vues, la débrouille des habitants qui montent leur propre épicerie, l'énergie des élus qui font des vidéos sur YouTube pour attirer des médecins ou qui passent des heures à monter des dossiers pour obtenir des subventions, toutes ces initiatives prouvent la vitalité des zones rurales. Nous retrouvons le géographe Pierre-Marie Georges.
Ces exemples illustrent le fait que c'est un engagement pluriel et collectif. Cette énergie, elle existe parce que des gens y croient, des gens ont envie de s'y investir. Aujourd'hui, quand vous parlez de santé, effectivement, il y a un problème de désertification médicale très très fort et qu'on a assez largement documenté avec l'Association des maires ruraux de France pour dire qu'aujourd'hui, il y a un différentiel d'espérance de vie de 2 ans entre un habitant homme du milieu rural et un habitant homme de la ville. Ça, c'est inacceptable. Et donc, du coup, ça interroge à la fois, d'abord, les politiques publiques, puisqu'on se dit, mais qu'a fait l'État pour laisser à ce point la désertification médicale s'installer. Et face à une forme d'absence de réponse, eh ben, un ensemble d'acteurs variés va se mettre en scène pour essayer de donner des réponses nouvelles. Des acteurs associatifs, en appui avec le monde politique, les élus et autres, donnent la preuve à travers des initiatives très variées, très innovantes, qu'on peut apporter des réponses.
Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Oui, fondamentalement optimiste, puisque ces dernières années, le rural a donné à voir son rôle et son importance dans l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'on est à la fois sur une pente démographique qui donne à voir le regain d'intérêt d'un ensemble varié de populations pour vivre en milieu rural, mais surtout pour s'y investir et pour développer des activités. Et donc il y a une forme d'énergie, il y a une forme d'enthousiasme aussi à travailler en milieu rural et à développer ces territoires qui donnent beaucoup d'énergie à tous ceux qui travaillent auprès de ces acteurs, notamment auprès des élus.
Revitaliser les campagnes, l'énergie de l'espoir. Marie-Jeanne Delepol a signé ce reportage avec Yann Frécy à la prise de son. Réalisation Charles de Silia, assisté de Martine Messonnier. Mixage Jean-Benoît Tétu. Cette émission est dès maintenant disponible à la réécoute sur le site de France Inter.